une question. Je ne vous demande pas de lever la main,
mais de répondre simplement dans votre cœur. Combien y en a-t-il parmi vous qui connaissez quelqu'un qui s'appelle Jean? Combien y en a-t-il parmi vous qui connaissez quelqu'un qui s'appelle Ernest, qui s'appelle Mathieu, Philippe, André ou Paul? Combien y en a parmi vous? Permettez-moi de vous poser une deuxième question. Combien parmi vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Judas? Moi, je n'en connais pas. Non, maintenant, je parle qui vit aujourd'hui. Oui. Probablement pas un seul parmi vous. Vous connaissez peut-être une chèvre ou un chien qui s'appelle Judas, mais vous ne connaissez personne qui s'appelle Judas. Et si vous en connaissez un, c'est un fait très rare. À l'époque de Jésus, une mère tenait son bébé dans ses bras, elle lui donnait des bisous sur les joues, elle lui donnait aussi, elle l'allaitait, elle lui avait donné le nom de Judas et elle l'aimait de tout son cœur. Malheureusement, aujourd'hui, le nom de Judas est un nom qui rappelle la trahison et pourtant Jésus a choisi Judas. Regardez avec moi ce que Jésus dit à ses disciples au verset 63 à 68 dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 63 à 68. Je vais la donner dans une version français courant, un petit mélange de français courant et de Louis II pour mieux nous faire comprendre le texte. Alors Jésus dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme seul n'arrive à rien. Et c'est vrai, Jésus dira à un moment donné que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns, pardon, parmi vous ne croient pas. Là, il parle de ses disciples, hein? Car Jésus savait dès le commencement, et parmi ses disciples, il y avait les apôtres. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait qui devait le trahir. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, voulez-vous partir vous aussi? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint envoyé de Dieu. Versets 70 et 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et pourtant, l'un de vous est un démon, ou, dans une autre version, est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Car Judas, qui faisait partie des 12 apôtres, allait le trahir, et c'est Jésus qu'il avait choisi. Transportons-nous maintenant, frères et sœurs, dans le jardin de Gethsémané. La nuit est sombre. Jésus parlait encore quand Judas arriva, l'un des 12 disciples. Matthieu 26, versets 47 à 49, nous dit ceci. Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule nombreuse, de gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui leur livrait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. « L'homme que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. » Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit, « Salut, maître. » Puis il l'embrassa. Le baiser qui scellait sa trahison, le baiser de la mort. Et certains prêtres étaient parmi la foule et vous pouviez voir dans leurs yeux la haine qu'ils portaient vers Jésus. Ou la haine qu'ils portaient à Jésus. Et le texte biblique, différent dans les différents évangiles, nous rappelle que les Juifs enviaient Jésus, ils étaient jaloux de Jésus et il n'y avait pas de prix pour faire mourir Jésus. Et est-ce que Jésus a été pris par surprise par tous ces événements? Après tout, n'est-ce pas lui qui avait choisi cet homme? Est-ce que Jésus aurait commis une erreur, frères et sœurs, en choisissant Judas? Lui, dont Marc, chapitre 7, verset 37, il est dit qu'il fait tout à merveille. Lui qui ne se trompe jamais. Est-ce que pour une première fois dans sa vie, Jésus aurait commis une erreur en choisissant Judas? Pourtant, Jésus savait exactement ce qu'il faisait en choisissant Judas. Pourtant, alors pourquoi l'a-t-il choisi? Pourquoi a-t-il permis à un escroc de servir dans le ministère? Pourquoi a-t-il voulu que quelqu'un qui avait un visage à deux faces, on dit ça, c'est un visage à deux faces? Parfait. Un visage à deux faces le représente et le serve dans le ministère. Pourquoi? Qui aurait voulu d'un homme comme lui sur son équipe, sachant qu'il le trahirait? N'est-ce pas là une question pertinente? La première chose qu'on demande à quelqu'un qui veut faire partie d'une équipe, c'est sa loyauté. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas? Je pense qu'en examinant ce passage, alors que nous nous demandons pourquoi Jésus a choisi Judas, nous allons trouver au moins trois réponses à cette question. Premièrement, pour que cela nous serve d'avertissement, nous, des chrétiens de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Deuxièmement, pour nous rassurer en tant que chrétiens. Troisièmement, pour nous réconforter en tant que chrétiens. Amen. Il y a quelqu'un qui a prié pour moi, mais je vais quand même prier, je n'ai besoin. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients ce matin que ce n'est pas la parole d'un homme que nous voulons entendre, mais vraiment ta parole. Et Seigneur, que l'homme si faillible, Seigneur, si faible, eh bien, que l'homme puisse s'effacer, que ton Saint-Esprit puisse agir avec puissance, Seigneur, dans ce lieu ce matin, afin que tous les cœurs présents puissent être touchés, touchés par ta grâce, touchés par ta parole, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui est vivante, celle qui est tranchante comme une épée. Et Seigneur, nous voulons vraiment qu'elle vienne pénétrer dans nos âmes, afin, Seigneur, d'enlever ce qui doit être enlevé et de laisser place à ta parole, afin qu'elle y trouve toute la place qui lui revient. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un grand Dieu. Que toute personne ici présente ce matin puisse te laisser leur parler, parler à leur cœur, afin que nous puissions sortir dans ce lieu enrichi. Enrichi, parce que non seulement tu réagis avec puissance dans nos vies, à travers ta parole, à travers ce message, mais aussi, Seigneur, parce que nous aurons la certitude que tu étais présent au milieu de nous, du début jusqu'à la fin de cette réunion ce matin. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent. Et Seigneur, tu es ressuscité. Nous savons que tu es présent par ton Saint-Esprit au milieu de ce lieu ce matin. Et nous voulons vraiment faire en sorte que toute la gloire te revienne, Seigneur, parce que toi seul es digne de recevoir cette gloire. Tu as payé un prix tellement élevé. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Premier point que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est que Jésus a voulu nous avertir contre l'hypocrisie religieuse et le besoin d'être sauvé. Verset 64, il est dit, « Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait qui allait le trahir. Il sait ceux qui croient, et Jésus sait faire la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Vous prêchez devant une foule le dimanche matin, et vous savez que même si tous les gens sont rassemblés dans une même salle, il y a une ligne qui les divise, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. » Amen. Je ne parle pas ici d'une croyance intellectuelle. Le mot « croire » signifie faire confiance en son cœur. Jésus savait quels sont ceux qui croyaient en lui et ceux qui ne croyaient pas en lui. Et si vous ne lui faites pas confiance, si vous ne croyez pas en lui, vous n'êtes pas sauvés. Le début du message est peut-être dur à avaler, mais vous allez voir que la suite, elle va bien se digérer, frères et sœurs. C'est important pour nous. C'est important pour nous de savoir, est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu es un hypocrite religieux si j'appartiens vraiment à Jésus-Christ? Je pense qu'on est tous intéressés à avoir notre réponse personnelle parce que c'est ce qui va déterminer notre éternité. Cette certitude, quand on va quitter ces lieux, quand on va quitter cette terre, de savoir où on va passer l'éternité. L'éternité, frères et sœurs, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Ceux qui vont être au ciel pour l'éternité, ça n'aura pas de fin. Et ceux qui vont être en enfer, qui vont souffrir pour l'éternité, ça n'aura pas de fin. C'est incroyable. Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce passage nous rappelle que ce qui s'est passé au temps de Jésus se répète encore aujourd'hui, frères et sœurs. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui font partie de la même foule que celle dans laquelle se trouvait Judas. Pourtant, ils sont difficiles à reconnaître. Difficiles à reconnaître. Si vous aviez observé Judas à son époque, vous vous seriez dit, quel homme génial, ce Judas! Il faisait partie d'un groupe à qui vous n'aviez rien à reprocher. Et il mettait la main à la pâte comme tous les autres. Pardon. Il devait être d'agréable compagnie, n'est-ce pas? Il était proche de Jésus, qu'il l'appelait même son ami. Il avait passé trois ans et demi dans la meilleure faculté de théologie du monde. Il était enseigné par le Seigneur Jésus lui-même, l'entendant prêcher et apprenant des vérités que personne n'avait entendues avant eux, de la part de Jésus. Quel privilège il avait de pouvoir connaître quelqu'un comme Jésus. Non seulement avait-il de bonnes fréquentations, mais il avait une bonne réputation. Lorsque Jésus va dire dans Matthieu chapitre 26, versets 21-22, « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira », il n'y en a pas un seul, frères et sœurs. Je sais qui c'est cette racaille de Judas. Il n'y a pas personne qui a dit ça. Personne. Qu'est-ce qui est écrit? Frères et sœurs, les apôtres ne savaient tellement pas qui cela pouvait être qu'ils se mirent à demander à Jésus les uns après les autres. Matthieu 26, verset 21-22. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur? C'est pas moi. Seigneur, dis-moi si c'est moi. Personne n'aurait pu douter que c'était Judas. Probablement que même certains ont pu penser que ça pouvait être Pierre. Permettez-moi de vous dire jusqu'à quel point il faisait confiance à Judas. Est-ce que vous vous rappelez la fonction que Judas occupait? Judas était le trésorier. Il s'occupait de gérer l'argent. Donc, je peux sortir un petit peu plus ce que je voulais dire. Pierre n'est pas là ce matin. Voilà. Il s'occupait de gérer l'argent de ce petit groupe. Qui choisissez-vous habituellement comme trésorier? La personne qui paraît la plus honnête. La personne en qui vous avez la plus confiance. Vous fréquentez une église, vous avez de bonnes fréquentations et vous avez une bonne réputation. Tout le monde pense que vous êtes une personne merveilleuse. Et c'est ce que vous laissez paraître extérieurement. Mais Jésus pourrait dire un jour, « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez le mal. » C'est un sérieux avertissement que Jésus nous lance ce matin, ici. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'appuie pas sur les apparences. Dieu regarde au cœur. Ce qu'il a dit au prophète Samuel, il y a des siècles, il le répète dans sa parole pour nous. Je ne regarde pas aux apparences, je regarde au cœur. Et la première question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que notre cœur appartient entièrement au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Personne ne soupçonnait Judas. Vous auriez dit à Judas, « Judas, es-tu sauvé? » Et il vous aurait dit, « Quelle question, je suis un membre de l'Église que Jésus a créé. » Vous auriez répliqué en disant, « Je ne t'ai pas demandé, Judas, si tu étais un membre d'une église. Je t'ai demandé si tu étais sauvé. » Mais vous auriez probablement répondu, « Écoutez, moi, je participe à un ministère, moi. Je suis trésorier. Je suis quelqu'un qui suit Jésus. » Et ce serait la même question. « Judas, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Est-ce que tu es sauvé? » Il y a 35 ans, quand on m'a posé cette première question, j'aurais fait comme Judas. Ah, mais si Dieu me demande ça, je vais dire, écoute, j'ai donné beaucoup d'argent aux pauvres. Et Dieu va t'arrêter, va dire, non, je ne t'ai pas demandé si tu avais donné de l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus-Christ? Es-tu sauvé ou si tu es perdu? L'as-tu accepté ou tu l'as rejeté? Et le mot accepter Jésus est tellement galvaudré aujourd'hui. Hein? Tellement galvaudré. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Et si tu dis oui ce matin dans ton cœur, qu'est-ce que cela a changé dans ta vie de croire au Seigneur Jésus-Christ? Si ça n'a rien changé, c'est seulement à partir d'ici et de là que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, ça n'a pas encore été touché. Quand le cœur est touché, vous êtes bouleversé. Quand le cœur est touché, vous êtes capable de pardonner, alors vous n'étiez pas capable de pardonner avant, et ainsi de suite. Chers amis, même si vous avez été baptisé dans l'Église, même si vous avez fréquenté l'école du dimanche, et même si votre nom est inscrit dans le livre de l'Église en tant que membre, vous pouvez vous retrouver un jour en enfer. Quel avertissement sérieux Jésus nous donne ici. Il y a tellement de gens qui ont les formes extérieures de la foi, mais qui en renient ce que fait la force, dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée. Frères et sœurs, beaucoup de gens qui fréquentent l'Église le dimanche ne sont jamais nés de nouveau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même pour savoir si vous vivez dans la foi. » En d'autres mots, ne pensez pas parce que vous êtes religieux que vous allez entrer au ciel. Rappelez-vous que la foule qui a fait crucifier Jésus, elle était religieuse. Quel avertissement cela devrait être pour nous? Non seulement c'est une parole d'avertissement pour nous, mais c'est aussi une parole d'encouragement. Parce que les 11 autres n'ont pas cessé de servir le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Et je tiens à vous dire ceci ce matin. Ne laissez pas certains Judas qui fréquentent l'Église vous envoyer en enfer. Ne laissez pas certains hypocrites vous empêcher d'aimer et de servir le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église. Frères et sœurs, la race des hypocrites, elle n'est pas morte avec Judas. C'est un avertissement sérieux pour nous dans le sens que s'il y en a eu à l'époque de Jésus parmi 12, imaginez-vous combien il y en a dans une église où il y a 100-150 personnes qui la fréquentent. Et ça fait partie du plan du malin. L'ivraie qui vient étouffer le blé pour l'empêcher de croître, de grandir dans sa foi et de servir le Seigneur. Il y aurait toujours eu des hypocrites dans l'Église, il y en aura toujours, et c'est ce que Jésus dit. L'ennemi vint semant de l'ivraie parmi lui, parmi le blé. Matthieu 13, verset 25. Frères et sœurs, vous achetez une douzaine d'œufs, et vous arrivez de découvrir qu'il y en avait un hypocrite parmi la douzaine. Extérieurement, ils paraissaient tous bons et beaux, mais intérieurement, il y en avait un qui était pourri. Chers amis, vous allez découvrir que les hypocrites viennent se cramponner à vous comme des sangsues. Et ils se cramponnent à vous afin que vous fassiez partie de leur club. Vous qui connaissez Jésus, montrez-leur la différence qui existe, pardon, entre les enfants qui ont rencontré Jésus et ceux qui ont pour père le diable. Frères et sœurs, Jésus était un hypocrite. Le mot hypocrite, frères et sœurs, vous savez ce que c'est en grec? J'ai dit Jésus? C'est que vous êtes réveillés. Judas, mais c'est fatigant, hein? Le dernier message, c'était Jacob, Joseph et Jésus. Je les ai mélangés tous les trois. Là, je suis avec Judas et Jésus. Je suis en train de les mélanger. Merci que ce soit Jésus qui soit mort sur la croix pour nous, non pas Judas. Frères et sœurs, Judas était un hypocrite. Un hypocrite, vous savez, c'est quoi le mot grec pour un hypocrite? C'est un acteur. Le mot hypocrite, c'est synonyme d'acteur. C'est quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui joue un rôle. Ça veut dire que le dimanche matin, il rentre juste avant de rentrer. Quand il rentre dans sa voiture le dimanche matin, il met son masque. Et là, il rentre à l'église. Et là, durant la louange, il salue tout le monde. Vous ne pourriez pas trouver un péché dans cette personne. Il joue bien son rôle. C'est un acteur, c'est une actrice. Il y a les deux, hein? Un acteur et une actrice. Et quand il rentre chez eux, quand il rentre à la maison le dimanche, il enlève son masque. Là, il a fini de jouer son rôle. Là, il devient ce qu'il est, un vrai diable. Il va faire suer tout le monde dans la maison pendant toute la semaine. Ce n'est pas Jésus qui est son maître, ça va être lui qui va être le maître dans cette maison pendant toute la semaine. Et le dimanche, oui. Alléluia, Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur. Il ne comprend pas pourquoi ses enfants ne sont pas capables d'accepter le Seigneur. Si Jésus avait amené une vie hypocrite, frères et sœurs, il n'y aurait pas d'église aujourd'hui. Pas d'église. Et mercredi, à la dernière étude biblique, j'ai dit que souvent, on attend que nos enfants viennent nous voir pour nous demander pardon, alors que trop souvent, on était tellement mauvais témoignage envers nos enfants qu'on devrait aller les trouver et dire, je te demande pardon. Je voudrais que tu me dises simplement si moi, en tant que père, je suis un obstacle pour ta conversion, ou si j'ai été un obstacle pour ta conversion, je te demande pardon. Moi, je ne voudrais pas, en tant que père, t'avoir bloqué l'entrée, l'accès au royaume de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui t'a fait mal dans ta vie, à travers moi, dis-moi-le, je vais le confesser, je vais te demander pardon. Nos enfants ont besoin d'entendre ces choses-là de la part des parents. Ce n'est pas juste aux enfants s'humilier, c'est aussi aux parents s'humilier. Il est tellement autoritaire des fois. On veut tellement leur taper sur la tête pour qu'ils comprennent. Non. Ils ne veulent pas être tapés sur la tête, ils veulent qu'on les prenne dans leurs bras. Puis, même si tu ne fais pas exactement ce que je te demande, je t'aime. Souviens-toi que je t'aime. Parce qu'il y a un autre combat spirituel, frère. Il y a le diable qui est là, qui leur dit, « Tes parents, ils ne t'aiment pas. C'est pour ça qu'ils t'imposent ça. » Ouais. Deuxième question qu'on pourrait se poser ce matin. Faisons-nous partie de la race des hypocrites? Faisons-nous partie de la race de ceux qui sont nés de nouveau et qui, le dimanche comme la semaine, ne jouent pas un rôle, mais manifestent en réalité que Jésus règne dans leur vie, que Jésus est non seulement leur sauveur, mais aussi leur Seigneur. Frères et sœurs, Judas était un hypocrite, mais Pierre ne l'était pas. André ne l'était pas. Jacques ne l'était pas. Jean ne l'était pas. Et je peux vous regarder droit dans les yeux ce matin et vous dire que moi, en tant que pasteur, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas capable de prêcher en avant ce que je ne mets pas en pratique. J'aime le Seigneur Jésus de tout mon cœur et je vous supplie de ne jamais laisser un quelconque Judas vous empêcher de servir et d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui me fait plus mal d'entendre des non-chrétiens. Lorsqu'on les appelle, on les invite à venir dans l'Église, qui me dit, moi, je ne veux pas aller dans ton Église parce qu'il y a des hypocrites. n'y a rien qui me fait plus mal. Chers amis, nous allons vivre soit au ciel, soit en enfer pour l'éternité. Et Jésus a choisi ici Judas afin de nous amener à comprendre l'hypocrisie religieuse et le besoin d'un vrai salut. Jésus savait qui croyait et Jésus savait qui ne croyait pas, nous dit la parole. Voici la deuxième chose que j'aimerais examiner avec vous ce matin rapidement. Non seulement Jésus veut nous mettre en garde contre l'hypocrisie religieuse et sur le besoin d'être sauvé, mais il veut nous rappeler la souveraineté de Dieu et la fiabilité des Écritures. Jean chapitre 6, verset 64, regardez ce qu'il dit. Jésus a dit qu'il y en avait quelques-uns parmi eux, parmi ses disciples, pardon, les disciples qui ne croyaient pas parce qu'ils savaient depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et ils savaient qui allait le trahir. Et dans Jean chapitre 13, verset 18, il parle de ceux qui ont besoin d'être sauvés et il dit, « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. » Portez attention à ce qu'il dit ensuite. « Mais il faut que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Celui avec qui je partageais mon pain s'est tourné contre moi ou s'est retourné contre moi. » Et Jésus est en train de citer le psaume 41, verset 9 ici, où il est écrit celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, avec qui je mangeais mon pain, s'est détourné de moi. Regardez maintenant ce qui est écrit dans Jean chapitre 13, verset 19. Je vous le dis déjà maintenant avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez qui je suis. Qui? Le Messie. Amen. Jésus dit, écoutez, je vous ai choisi, je sais qui j'ai choisi. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas, c'est des démons. Ce n'est pas comme si quelqu'un va me tourner puis qu'il ajoute, c'est pas un accident, il y a longtemps de cela. En fait, ce que Jésus veut dire ici, ce n'est pas un accident. Il y a longtemps déjà, les Écritures avaient prédit ce qui arriverait à mon sujet. Et c'est ce qui fait la fiabilité des Écritures. Je l'avais dit dans le premier message. On ne s'étalera pas là-dessus, mais c'est ce qui fait la crédibilité des Écritures sur laquelle on peut s'y fier. Comment quelqu'un peut-il prédire ce qui va se passer du début jusqu'à la fin des temps? Comment quelqu'un peut-il prédire cela avec précision s'il n'a pas d'abord précédé le temps? Est-ce que je me fais bien comprendre ici? Comment quelqu'un peut-il prédire ce qui va se passer en 1960 s'il n'est pas déjà en 1961? C'est ce qui fait Dieu. Dieu vit dans l'éternité, frères et sœurs. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu, dans son omniscience, ou Dieu dans sa préscience, si vous préférez, savait exactement que tout cela arriverait. Il le savait d'avance. Il le voyait. Il était peut-être 10 000 ans avant Jésus-Christ, mais il le voyait. Il voyait tout cela. Il savait qui le trahirait. Et Jésus dit, « Cela est arrivé afin que les Écritures s'accomplissent. » Puis il ajoute, « Afin que lorsque la chose arrivera, vous croyez que je suis le Messie. » Saviez-vous, frères et sœurs, que Judas a prêché ce merveilleux message de l'Évangile de Jésus-Christ? Mais il avait un plan diabolique à mettre à exécution. Et il avait oublié que Dieu est au-dessus de tout plan humain et qu'il règne sur toute chose. Est-ce que Judas avait le choix de trahir ou de ne pas trahir Jésus? Qui dit oui? Qui dit oui? Attention, là, vous touchez au libre arbitre, hein? Qui dit oui? Qui dit non? Certainement qu'il avait le choix. Certainement. Si Dieu ne fait pas de favoritisme, ça veut dire qu'il a créé Judas juste pour aller en enfer? Absolument pas. Hein? Judas a eu le choix. Hein? Comme nous avons tous le choix de rejeter ou d'accepter Jésus-Christ. Est-ce que Judas est obligé de trahir Jésus? Pas du tout. Dieu lui a laissé le libre choix de le faire ou de ne pas le faire. J'irai plus loin que ça. Dieu voulait le sauver. Jésus aimait Judas comme il aimait les 11 autres. S'il s'était repenti, Jésus lui aurait pardonné. Il lui aurait même pas reproché d'avoir comploté, de le trahir et de vouloir le faire mourir. Il lui aurait pardonné. Vous vous dites peut-être, si Jésus avait pu le sauver, pourquoi avoir prophétisé alors qu'il le trahirait? Est-ce que cela ne signifie pas qu'il n'avait aucune chance d'être sauvé? Oh oui, il avait une chance d'être sauvé, frères et sœurs. Et s'il l'avait fait, Jésus, je suis persuadé que Jésus lui aurait pardonné. Chers amis, les hommes forment des projets, nous dit l'auteur des Proverbes. mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. En Louis II, c'est écrit « L'homme propose et Dieu dispose ». Tandis que nous voyons arriver les choses les unes après les autres, Dieu voit toutes choses en même temps et en une seule fois. Essayez de vous imaginer ça en tant qu'être humain. Avant que je fonde comme un chocolat, je vais mettre le ventilateur. J'aimerais ça que la Bible nous dit qu'il est bon de se mettre à la place des autres. Hein? Un dimanche, je vais prêcher dans le fond là-bas, je vais tous vous faire asseoir ici. Et je vais voir les femmes qui vont sortir leurs mouchoirs, les hommes qui vont défaire leurs cravates, il y en a qui vont enlever leur manteau. Il fait terriblement chaud, hein? Ça demeure en avant ici. Est-ce que vous savez qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire? C'est celle d'apprendre quelque chose qu'il ne savait pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour Dieu? De créer l'univers ou de sauver quelqu'un? Qu'il est le plus difficile pour Dieu? De sauver quelqu'un ou de créer l'univers? De créer l'univers, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de personne. Mais pour amener quelqu'un à naître de nouveau, Dieu ne forcera jamais quelqu'un à l'accepter contre son gré. Parce que c'est la part de l'homme. C'est pas que Dieu a besoin de son aide. Dieu fait tout ce qu'il peut pour amener la personne à être sauvée. Il lui permet d'entendre l'Évangile. Il lui permet dimanche après dimanche d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de renoncer à son ancienne vie, de se repentir, de se convertir. Et ça, c'est la liberté qu'il a laissée à l'homme. Dieu ne forcera pas parce que Dieu nous aime. Et l'amour ne force pas. J'y connais un musulman à Verviers, lui, il me disait que sa femme, elle l'aimait comme un fou. Ah oui, le soir, à partir de minuit, elle allait jouer aux cartes jusqu'à 8 heures du matin, puis il avait rouillé la clé dans la maison. Bien, même si elle aurait voulu le tromper, elle n'était pas capable de sortir de la maison. Elle était embarricadée, quoi. Elle était kidnappée. À chaque soir, elle était kidnappée, sa femme. Et il mettait un peu de craie sur la porte pour être sûr que la porte n'avait pas été ouverte durant la nuit, qu'elle n'avait pas un double des clés. Quand il rentrait le matin, il regardait si toute la craie était à la bonne place. Il y avait un joint qui avait été effacé parce qu'on avait ouvert ou fermé la porte. Frères et sœurs, l'amour ne force pas. Et Dieu ne forcera pas personne à l'accepter quand cette personne-là ne veut rien savoir de Dieu. Amen. Est-ce que Judas avait le choix? Oui. Est-ce que Dieu le savait? Oui. Est-ce que Dieu savait à quel moment cela arriverait dans l'histoire? Oui. Est-ce que Dieu est toujours en contrôle de tout et que rien ne peut lui échapper? Oui. Mais ce sont tellement des choses difficiles à comprendre pour nous, n'est-ce pas? La responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Et peu importe ce que les hommes peuvent compléter dans le monde, peu importe ce que les puissances peuvent compléter dans le monde, il n'y a rien qui va déroger au plan de Dieu. Amen. Il y a un jugement dernier qui s'en vient, frères et sœurs. Il n'y a personne qui va empêcher ça. Que vous soyez sur Mars ou sur Pluton, il n'y a personne qui va empêcher ça. Je ris un peu parce que les grands de ce monde ne sont pas capables de régler les problèmes de la Terre, puis ils sont rendus sur Pluton, là. Ça va prendre plus qu'une vie pour se rendre sur Pluton. Ils vont faire rêver les gens. Hein? Ouais. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit qu'il y a une vie après la mort, que c'est le début d'une nouvelle vie, avec une personne merveilleuse, la personne de Jésus-Christ. La Bible ne nous parle pas d'un cadavre, elle nous parle d'un ressuscité, quelqu'un d'extraordinairement merveilleux, quelqu'un qui n'était pas obligé de venir sur la terre mais chercher des pécheurs tels que nous sommes. Et qui s'est fait pécher pour nous. Et à la croix, quel échange magnifique qui se passe à la croix. Vous venez à la croix en tant que coupable et vous partez justifié. Vous venez à la croix avec vos péchés, vous les déposez à la croix et vous partez, le fardeau est tombé. C'est lui qui les a, vos péchés. Quel échange il a à la croix. Vous venez à la croix, vous êtes esclaves du monde et vous partez, vous êtes libérés de la puissance que le monde exerçait dans vos vies. Vous venez à la croix, le diable est votre père et vous retournez, vous quittez la croix, Dieu est devenu votre père. Vous amenez à la croix, vous faites partie du royaume des ténèbres et vous tournez le doigt à la croix pour retourner et, et vous êtes un enfant du royaume de Dieu. Extraordinaire ce qui se passe à la croix. Vous aviez pour père le diable, vous avez maintenant Dieu pour père. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un bel échange qui s'est passé à la croix? Et ça, là, c'est la réalité de la croix. Il y a combien de gens dans le monde qui portent une croix dans le cou et ça ne se limite qu'à une belle décoration? Mais lorsque la croix, elle devient une réalité dans nos vies, frères et sœurs, c'est une vie de miracles qui se passe. Ouais. Et c'est pas vous qui faites les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles à travers vous. Mais pour cela, Dieu, en Jésus-Christ, non seulement Dieu a besoin, Jésus a besoin d'être votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. S'il n'est pas votre Seigneur, jamais vous verrez les portes du royaume de Dieu vous ouvrir. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Hébreux, chapitre 12. Pas moi qui le dis, c'est Hébreux. Hein? Moi, j'essaie de vulgariser la parole pour que tout le monde la comprenne. Sans la sanctification, nul ne verra le royaume, ne verra le Seigneur. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu sait exactement avec précision ce qui arrivera. Troisièmement, pour terminer rapidement, Jésus veut nous rappeler notre responsabilité personnelle et la tragédie du péché. Nous avons déjà dit que Judas était responsable pour ce qu'il a fait. Personne ne l'a obligé ou forcé à faire cela. La Bible nous dit clairement que Judas était un voleur. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Jean chapitre 6, verset 64, que Jésus savait dès le commencement, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et il savait qui le trahirait. Regardez ce qui est écrit au verset 70 et 71, Jean chapitre 6. « Ne vous ai-je pas choisi tous les douze? Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, nous dit le texte biblique, car Judas, quoiqu'il fût un des douze disciples, allait le trahir. Judas était un voleur, il a trahi Jésus, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas était trompé par le péché, après avoir réalisé ce qu'il avait fait, après avoir réalisé jusqu'à quel point il avait été trompé par le péché, il est écrit que Judas, dans Matthieu 27, vous regarderez à la maison, 27, versets 3 et 4, que Judas, celui qui l'avait trahi, ayant appris que Jésus avait été condamné, fut alors pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant, « Je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. » Le crime horrible qu'il a commis le hante. Sa conscience est torturée, faisant apparaître en lui le désespoir total. Il avait été trompé par le péché lui avait fait miroiter de grandes choses, et il a reçu tellement peu en retour. Et frères et sœurs, on est bien honnête là. Hein? J'espère que qui a jamais péché, s'il levait la main. Ça m'encourage à continuer. Si on a tous péché, on a tous vécu la même expérience. Hein? Vous savez pourquoi on tombe dans la tentation? Parce qu'on oublie toujours les conséquences du péché. La séduction du péché, c'est de faire miroiter le plaisir qu'il va vous apporter et de vous faire oublier les conséquences. Alors que la Bible nous dit clairement qu'il y a une conséquence à chaque péché que nous commettons. La conséquence, elle peut être immédiate, elle peut être retardée, et ça peut aller plus tard, mais une chose qui est certaine, plus elle est retardée, plus elle va frapper fort et plus elle va faire mal. Ne vous y trompez pas, dit la parole, ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Mais rappelez-vous, si Ève, dans le jardin d'Éden, lorsque le diable a tenté, il lui avait montré, il l'avait pris, il l'avait télétransporté en 2015, 2016, qui lui avait dit, regarde bien là, regarde bien si tu tombes, si tu prends du fruit défendu, regarde bien ce qui va avoir de l'air, ce que la terre va avoir de l'air, je ne suis pas convaincu qu'elle aurait tombé. Hein? Mais il lui a fait oublier toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Vous savez ce qui lui a fait miroiter? Ève, avec ton mari, tu vas vivre une vie encore meilleure sans Dieu. Parce que tu vas devenir ton propre Dieu. Tu n'auras pas de compte à rendre à ton Créateur. Tu vas prendre tes propres décisions à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et elle est tombée. Elle est tombée. Mais s'il lui avait montré toutes les conséquences, les milliards de meurtres qu'il y aurait depuis les premiers couples jusqu'à aujourd'hui, les milliards de viols, d'abus, de toutes sortes, je ne suis pas convaincu qu'elle serait tombée. Mais il lui a fait miroiter tous les avantages, entre guillemets, du péché. Il n'y a aucun avantage à pécher, surtout pour quelqu'un qui est né de nouveau, puisque lorsqu'on pêche, on perd notre communion avec Dieu. Et vous imaginez, il y a trois personnes qui sont venues au monde sans péché. Jésus, Adam et Ève. C'était dans leur nature humaine, mon œil, hein? Ils n'avaient pas encore péché, hein? Jésus nous montre son péché. Lui, il a choisi de marcher dans les voies du Seigneur. Lui, il a choisi d'obéir à son Père. Lui, il connaissait très bien les plans du diable. Lui, il savait très bien que si le diable le faisait tomber une seule fois, on était tous condamnés pour l'éternité. On était tous perdus, sans espérance. Et vous savez pourquoi il a tenu jusqu'au bout dans son 100% âme? Parce qu'il vous aimait, parce qu'il m'aimait. Essayez de comprendre ça. On n'est pas capable de comprendre ça. Parce que c'est un amour qui vient d'en haut, pas de bas. On a en bas, c'est des amours partagés. En haut, Dieu nous aime. C'est un amour qui est inconditionnel. Tu ne m'aimes pas, mais moi, je t'aime. Avant même que tu viennes au monde, je t'aimais. Puis quand tu vas monter en haut, rassure-toi d'une chose. Moi qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je vais continuer à t'aimer. Peu importe ce que tu auras fait, parce que tu auras été purifié, lavé dans le sang de l'agneau, tes péchés ont été effacés. C'est extraordinaire, non? Hey! Les grands de ce monde changent d'idée à tout bout de champ. La paix, c'est n'importe quoi dans le monde. Dieu ne change pas d'idée. Et la paix de Dieu, elle surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Mais le péché, il est là. Et dans Hébreux, on nous dit, faites attention au péché qui s'accroche si facilement à vous. Si facilement à vous. Hein, des fois, c'est lourd. On a de la difficulté à avancer, mais il y a des choses qu'on traîne derrière nous. Et le Seigneur nous dit, viens porter ça ici. Viens porter des fardeaux. Viens porter. Décharge. Décharge-toi. Il est écrit dans Actes chapitre 1, 18, cet homme, en parlant de Judas, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Hein? Un corps qui tombe là, d'un arbre quand il était pendu, puis qui s'écrase à terre comme une pastèque sur une roche. Quoi, hein? C'est plus grand-chose de Judas. Hein? Il a peut-être été accroché là 2, 3, 4 jours. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pendu. Moi, j'en ai vu après 10 jours. C'est pas très, très beau à voir. Hein? On a des mouches sur la langue, hein? On a, si c'est à l'extérieur, des oiseaux viennent vous arracher les yeux des orbites, vous gonfler, vous gazer de tous côtés. Et finalement, le coup finit par se détacher si personne vient vous décrocher. Pouf, tomber par terre. C.S. Lewis, un des grands philosophes du 20e siècle, a dit qu'il y avait deux catégories de personnes sur la terre. Il y a ceux qui disent, comme Jésus disait à Dieu le Père, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Ce sont ceux qui suivent ses instructions. Ils l'aiment parce qu'ils sont sauvés et parce qu'ils sont nés de nouveau. Puis il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont celles qui ressemblent à Jésus. Ce sont celles qui ressemblent à Satan. Ben, il y a un gargouillement qui m'a énervé là. Ce sont celles qui ressemblent à Satan. Ce sont ceux qui disent à Dieu le Père, non pas ta volonté, mais que la mienne s'accomplisse. Ce sont ceux qui disent, il n'y a pas personne qui va me dire ce que je dois faire et comment je dois vivre. Deux catégories de personnes. Ceux qui, comme Jésus dit, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Et ceux qui disent comme Satan, non pas ta volonté, Seigneur, mais que la mienne s'accomplisse. C.S. Lewis ajoute ceci. Lorsque ceux qui disent à Dieu aujourd'hui, non pas ta volonté, mais que la mienne s'accomplisse, seront envoyés en enfer, Dieu leur dira contre-cœur et le cœur brisé, non pas ma volonté, mais c'est la tienne qui s'accomplit aujourd'hui. Parce que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu m'a laissé le choix. Dieu vous a laissé le choix, et Dieu a laissé le choix à Judas. Dieu savait quel choix il ferait, mais il a néanmoins eu un choix à faire, et il a eu toute la liberté de faire ce choix, et il a fait le mauvais choix. Il est mort, il est allé dans un endroit que la Bible appelle le séjour des morts, en attente du jugement dernier. Il a été trompé par le péché l'a détruit, et le péché l'a envoyé en enfer. Je veux que nous voyons non seulement la tragédie du péché, mais je veux que vous voyez l'assurance du croyant. Vous rencontrez des gens qui vous disent qu'une des raisons pour lesquelles ils ne croient pas que nous pouvons être certains d'être sauvés, c'est à cause de Judas. Eh bien, il est bon de faire remarquer ici que Judas n'a jamais cru. Il est écrit au verset 64 que Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il y avait une grande différence entre Judas et Simon-Pierre. Regardez ce qui est écrit au verset 67 du chapitre 6. Jésus dit donc aux douze, Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Et regardez la réponse de Simon-Pierre au verset 68. « Seigneur, à qui d'autre irions-nous? » Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Portez attention maintenant à ce que Pierre dit. « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint envoyé de Dieu. » Nous avons deux groupes de personnes ici. Judas qui était religieux, mais qui n'était mais qui n'est jamais né de nouveau. Et Simon-Pierre, un dur, qui a trébuché. Mais Dieu veillait sur lui parce qu'il avait cru. Regardez maintenant ce qui est écrit au verset 37. Verset 37, c'est important pour ceux qui ont leur Bible. On va essayer de terminer rapidement. Verset 37, pardon. « Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi. Qu'ajoute-t-il ensuite? Et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. » N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Et j'aimerais m'adresser maintenant particulièrement à ceux qui n'ont jamais pris cette décision pour le Seigneur, à ceux qui fréquentent l'Église depuis des années et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas dignes d'être reçus par le Seigneur Jésus-Christ. Quelle parole extraordinaire pour vous ce matin! Le Seigneur Jésus dit, « Je ne rejetterai jamais personne qui vient à moi. » Tout ce que vous avez à faire ce matin, c'est de venir à lui. Il est déjà venu à vous, il y a plus de 2000 ans. Et il dit maintenant, « Je ne rejetterai jamais personne qui vient à moi. » Amen! Personne! Personne! Le mot, c'est « personne ». C'est ce qui est écrit. Personne! N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Regardez maintenant versets 47 à 50. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point, c'est-à-dire il vivra pour toujours. » Qu'est-ce qui fait la différence entre Judas et Pierre? Si vous lisez le chapitre 22 de l'Évangile de Luc, vous allez découvrir dans ce chapitre que Jésus dit qu'il y en a un qui va le trahir et qu'il y en a un autre qui va le renier. Judas a trahi Jésus, il est allé en enfer. Pierre a renié Jésus, il était au ciel maintenant. Qu'est-ce qui fait la différence entre Judas et Pierre? Pierre s'est repenti, tandis que Judas était pris de remords. Pris de remords, ça veut dire presque regretter que son plan n'a pas marché. Parce que ce n'était pas vraiment de faire mourir Jésus qui est derrière tout ce qui se cache derrière Judas. Pouvoir, être reconnu par les grands de la société. Allez, Jésus, fais des miracles. Allez, Jésus, montre-leur qui tu es. Au-delà de la volonté de ton Père. Qu'en est-il maintenant de Pierre? Jésus dit, Simon, Simon. Luc 22, verset 31-32. C'est le dernier passage que je vous permets de tourner ce matin. Luc 22, je vous demande, pardon, de tourner. Luc 22, verset 31-32. Ça, c'est important pour vous, c'est important pour moi, ce matin, ce passage. Quels sont ceux qui croient au Seigneur Jésus ce matin? Okay. Simon, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, et toi, quand tu seras converti, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frères et sœurs, Pierre croyait au Seigneur Jésus puisqu'il a dit, « À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre croyait, mais il n'était pas converti. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Jacques chapitre 2, verset 20-19, « Tu crois? » Le diable aussi croit, les démons aussi croient, mais ils tremblent. Jésus sauveur, tu crois? C'est Jésus Seigneur qui confirme ta conversion. Parce que Jésus Seigneur, son esprit vient habiter en toi. Il y a un bouleversement dans ta vie, comme j'ai dit au début de mon message. C'est pour moi qu'il dit, et quand tu seras converti, Pierre, tu n'es pas encore converti. Tu crois, hein? Tu as vu tout ce que j'ai fait, hein? Tu crois. Tu crois que tu as dit que je suis le seul. Tu crois. Tu as dit que j'étais le Messie. Tu l'as confessé. Mais quand tu seras converti, Pierre, au lieu de décourager tes frères, tu vas affermir la foi de tes frères. Ce n'est pas mes paroles ce matin. Les paroles du Seigneur Jésus. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas, que tu n'abandonnes pas tout. J'ai prié pour cela. Et ce qui est encourageant, c'est que la parole nous dit que Dieu répond toujours aux prières du Seigneur Jésus. Dieu exauce toujours les prières du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a exaucé la prière de Jésus ici. Parce que Pierre s'est converti. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous, pourquoi? Afin que vos péchés soient effacés. Je peux croire au Seigneur Jésus si je ne suis pas converti, mes péchés ne sont pas effacés. Le diable y croit que le Seigneur Jésus est sauveur du monde, mais il n'en fera jamais son Seigneur. Et il tremble parce qu'il sait que l'enfer l'attend, frères et sœurs. Et il en est de même pour tous les religieux qui n'ont pas cette certitude d'être sauvés. Ça, ça vient du ciel ou de l'enfer? Frères et sœurs, on a besoin de placer notre foi là où Dieu place vos péchés, c'est-à-dire tout simplement sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Vous savez, à un moment donné, je me suis demandé dans ma vie chrétienne à quel moment j'étais né de nouveau. Ouais. À quel moment dans mes 35 ans de vie chrétienne j'étais né de nouveau? Ah, j'ai levé la main. J'ai répondu à l'appel. J'ai cru. Mais je ne suis pas convaincu que je me suis converti tout de suite. Je ne suis pas convaincu. Parce que les changements de vie qui sont écrits dans la parole, eh bien, ça a pris quand même du temps à faire son effet dans ma vie. Et j'ai confessé que j'étais un religieux. Ouais. J'ai confessé que Jésus-Christ n'était pas mon Seigneur, que je m'appuyais sur mes propres forces pour progresser dans ma vie chrétienne, que je voulais continuer à diriger ma vie comme je voulais, non pas comme Dieu le voulait. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est un message que j'ai lu de Charles Finney sur la vraie et la fausse repentance. De 2 Corinthiens chapitre 7. Il y a une repentance qui mène à la mort, il y a une repentance qui mène au salut. Et il dit que la vraie repentance, celle qui mène au salut, nous amène à voir le péché comme Dieu le voit. Nous amène à détester le péché comme Dieu le voit. Le péché cesse de nous attirer. Parce qu'on voit les choses maintenant du point de vue de Dieu, puisqu'on est né de nouveau, on est converti. Frères et sœurs, êtes-vous encore attachés à vos péchés? Est-ce qu'il y a encore des péchés que vous chérissez en secret? Et dont vous n'avez pas encore obtenu la délivrance? Je ne vous parle pas de vous, je ne veux pas vous culpabiliser ce matin. Simplement que vous fassiez une réflexion personnelle. Je vais avoir à répondre de ce que je vous enseigne, moi, devant le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager que ce matin, je pense que Dieu parle à toute l'Assemblée. Que Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse dans cette salle, mais que tous parviennent à la repentance. Parce que Dieu se réjouit dans le ciel avec ses anges pour un seul pécheur qui se repent. Pour une seule brebis qui réintègre son troupeau. Et vous êtes peut-être cette brebis perdue dans cette salle ce matin, qui résistait encore pour venir au Seigneur Jésus, alors que c'est là que vous allez trouver votre bonheur. Vous savez comment les bergers en Israël faisaient pour dompter et pour montrer qu'ils étaient tellement attachés à une brebis qui était têtue. Quand une brebis quittait le troupeau, qu'on la ramenait, 3-4 fois qu'on la ramenait, vous savez ce que le berger faisait? Paf, il cassait une jambe. Vous savez pourquoi? Là, il la réparait. Et tout le temps de sa guérison, Le berger, il se promène avec son troupeau avec la brebis sur ses épaules. C'était la brebis qui était devenue la plus proche. Celle qui voulait s'éloigner le plus, c'était la brebis qui était maintenant la plus près de son berger. Si quand on appartient vraiment au Seigneur Jésus-Christ, quand on s'éloigne pour aller dans le péché, si on est vraiment né de nouveau, vous êtes certain que le bon berger va frapper dans nos vies pour non seulement revenir dans le troupeau, mais pour faire en sorte qu'on soit parmi les brebis, une des plus proches de lui. Et il va prendre un soin jaloux à nous enseigner, à nous montrer combien c'est le bon berger et combien c'est du bien qu'il veut pour nous. Frères et sœurs, on a un Dieu merveilleux. On n'a pas de temps à tout faire le message ce matin, mais on a un Dieu tellement grand. On a un Dieu tellement sympathique. Sympathique. Donc, qui veut être votre ami. Jésus va être votre frère ce matin. Si vous lui faites vraiment confiance, je ne parle pas ici d'être simplement religieux comme Judas, mais si vous mettez simplement votre confiance en lui pour être sauvé, il vous sauvera. Et après, vous dites, Seigneur, je t'ai accepté comme sauveur, mes péchés sont effacés. Merci, Seigneur. Maintenant, deviens maintenant mon Seigneur. Prends ma vie. Prends ma vie. C'est ce qu'il laisse dire dans Luc. Hein? Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Je veux devenir son Seigneur. Fermons les yeux, courbons la tête avant de terminer. Il y a peut-être des gens dans cette salle ce matin qui ont entendu le message à plusieurs reprises, mais qui ont, pour une raison quelconque, jamais osé lever la main, même si ça fait des années que vous fréquentez l'Église, qui, ce matin, Dieu leur a vraiment parlé. Dieu a parlé à leur cœur ce matin. Et que pour eux ce matin, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et qui veulent abandonner leur ancienne vie. Qui n'ont pas la certitude que leurs péchés sont effacés. Et qui ce matin voudraient prendre la décision que non seulement Jésus devienne leur sauveur, mais aussi leur Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, je te cède ma volonté, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Parce que je veux faire partie de ton troupeau. Je veux passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières, Seigneur. Je veux devenir ton enfant. Je veux devenir ta brebis, Seigneur, parce que tu es le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. S'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas cette certitude d'être sauvé, pendant que les yeux sont fermés, et moi, je ne suis pas là pour commencer à juger votre ancienne vie, votre nouvelle vie. Mais si vous n'avez pas cette certitude dans votre cœur ce matin, je vous invite juste à lever la main. Je vais prier pour vous après le culte. Vous viendrez me trouver, puis je vais prier pour vous. Levez la main et on va prier ensemble après le culte, dans l'intimité. Laissez le Seigneur vous parler ce matin. Ouais. Vous êtes en vie aujourd'hui? Peut-être que ce soir, Dieu vous rappellera à lui. Êtes-vous prête à rencontrer le Créateur? Êtes-vous prête? Avez-vous cette certitude qui va vous ouvrir les portes du ciel s'il vous rappelait à lui ce matin? Une dernière fois. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la certitude ce matin d'être né de nouveau, d'être passé de la mort à la vie, est-ce que quelqu'un dans cette salle ce matin qui n'a pas la certitude que ses péchés sont effacés? Est-ce que quelqu'un dans cette salle ce matin qui n'a pas la certitude lorsqu'il se présentera devant Dieu, que Dieu ne lui dira pas, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. » Plutôt que de lui dire, je ne t'ai pas connu, toi qui commettais le mal. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et je ne vais pas vous forcer la main, c'est une décision, je l'ai dit tantôt. C'est une décision qui est libre, c'est votre choix. Dieu connaît vos cœurs ce matin. Je veux simplement vous rappeler que si Jésus a choisi Judas, c'est probablement pour nous mettre en garde concernant l'hypocrisie religieuse, qui ne nous donne aucune garantie. Si Jésus a choisi Judas, deuxièmement, c'est probablement pour nous rappeler la souveraineté de Dieu et la fiabilité des Écritures. Et troisièmement, si Jésus a choisi Judas, c'est pour nous rappeler la responsabilité de l'homme. Et finalement, Jésus a peut-être choisi Judas pour nous rassurer et nous assurer que Dieu ne rejette personne qui vient à lui. N'est-ce pas là des paroles encourageantes pour chacun de nous? Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce ce matin. Et pendant que, Seigneur, tu continues à travailler les cœurs, même si nous sommes nés de nouveau, Seigneur, il nous arrive de nous laisser emporter, Seigneur, par cette nature humaine qui est là, qui combat toujours dans nos vies, pour nous maintenir éloignés de toi, pour nous empêcher d'avoir cette communion pleine et entière à laquelle, Seigneur, tu aspires pour chacun de nous. Seigneur, si c'est le cas, tu connais les cœurs, et je te prie, Seigneur, de déposer en eux ta paix, de déposer en eux ta joie, et la certitude que tout péché qui est confessé, tu es fidèle, Seigneur, pour nous pardonner. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique numéro 204 sur les ailes de la foi. Et pendant qu'on va chanter, je vais inviter les deux 204 sur les ailes de la foi. Le titre, c'est « Seigneur attire ». Et pendant que je vais inviter les préposés à l'offrande pour la mission. Bon, attendez un peu. Cherchez le cantique. On va régler le problème de l'argent maintenant, parce que j'aimerais bien que vous vous preniez par la main quand même. Et alors, on va faire... Est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent venir passer l'offrande de la mission? Jean-François, nomme les personnes. Attendez un peu, hein? On va quand même passer l'offrande avant. Là, vous êtes en train de faire un blocus ici, là.
C'est ce que tu veux, hein?
Mais c'est ce que j'avais demandé, hein? Puis on va passer l'offrande avant. C'est ce que j'ai dit ou après? Avant, hein? OK, c'est pas grave. Bon, bien, je vais choisir deux personnes. Paolo, tu veux passer pour l'offrande de la mission? Avec... Sydney. Bien. Ah, mais ça va. Attention, pour avoir un torticolis, Émile, en le regardant. T'as fini de grandir, oui.
J'espère.
J'ai oublié. OK, c'était marqué qu'il y avait vacances la semaine